rentrée, le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes comme tous les lundis à 18h30. Et notre but n'a pas changé, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Oui, oui, sortir de chez vous, il fait noir, il pleut, je sais. Mais je vous assure que ça vaut la peine, que dans les salles de spectacle, il fait chaud et dans vos cœurs, il fera chaud aussi. Ce soir, notre émission est basée sur de la musique, en fait, toutes les utilisations de la musique. Alors, vous voyez devant moi en plateau, donc, mais vous ne les connaissez peut-être pas physiquement, même si vous connaissez certainement au moins un de leurs spectacles. Donc, Nicole Mossou et Patrick Bonté. On dit Bonté ou Bonte ? Bonté, voilà, bonjour. Donc, spécialiste de spectacles, danse et théâtre. Un mélange, on va en parler. Vous venez pour Ophélia avec un S au Théâtre des Tanneurs qui se jouera du 28, du 11 au 2, du 12. Voilà, il faudra se dépêcher, pas beaucoup de jours, il faut se dépêcher pour réserver. Nous allons avoir en ligne, et c'est un grand honneur, Arturo Chocón Cruz. Pour le moment, l'Opéra de Liège présente les contes d'Hoffmann, d'Offenbach, et donc Arturo, c'est la voix d'Hoffmann. Pour l'avoir vu hier, je peux vous dire que c'est un spectacle spectaculaire et que Arturo est extraordinaire. Il chante dans toutes les positions, on lui fait faire des choses incroyables. Voilà, du 19 du 11, donc aujourd'hui, jusqu'au 2 du 12 aussi. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir aller parce que c'est souvent comme ça, tous les spectacles tombent en même temps. Et on attend donc Dominique Corbiot qui va interroger plus en plus grand spécialiste que moi, Arturo, donc au sujet de l'opéra. Ensuite, je vais vous parler très longuement d'un spectacle qui se joue au CCLJ ce jeudi, La flamme inextinguible. Alors, il s'agit de poèmes en russe et en yiddish. Donc, il y a 40 poètes juifs qui ont été assassinés par Staline et un très, très, très grand pianiste mondialement connu va venir, c'est passionné pour le yiddish de ses grands-parents et va venir donc jouer du piano et dire des poèmes et raconter l'histoire de ces poètes en compagnie d'un des plus grands acteurs russes du moment qui vit encore en Russie. Donc venez voir le spectacle, évidemment tout est traduit et vous aurez même les textes à la fin et puis vous pourrez leur parler après. Ce sont deux vies très très intéressantes. Et finalement, nous entendrons Aurélie Saada. Alors Aurélie Saada, c'est une des deux Brigitte. Elle a sorti l'année dernière un disque à elle toute seule, donc Bombolina. Et elle vient à la Tricoterie le 1er décembre, un soir seulement, pour un concert avec ses 5 musiciens. Mais le lendemain, elle sera à la FNAC parce qu'elle signe son livre. Et attention, c'est un livre de cuisine, Cuisiner le soleil. Parce que voilà, pour elle, il y a l'amour, il y a le soleil et puis... ça fait tout oublier. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, on nous a donné des bonbons. Ça aide à plein de choses. Et on va commencer avec vous. Alors, Nicole Mossou et Patrick Bonté, qui depuis, alors j'ai fait un petit calcul, 38 ans, travaillent ensemble. Alors, pour dire les choses tout de suite, sans vivre ensemble. Quoique peut-être que vous vivez plus souvent, plus longtemps ensemble qu'avec vos compagnes et compagnons respectifs. Donc Patrick Bonté est plutôt à l'origine, avant les 38 ans, plutôt pour le blabla, pour le français, le théâtre, etc. Et Nicole, vous êtes la danseuse depuis le départ. Et donc depuis, ça va votre 50e spectacle, vous savez,
en 38 ans. Ça doit faire un par an.
Ah oui,
En comptant des petites formes aussi, puisqu'on fait aussi des formes parfois qui sont déambulatoires, des performances, mais bon, un gros spectacle, 32, je dirais.
C'est déjà énorme. Et donc, vous avez eu la chance d'être accueillie dans des théâtres, ce qui vous amène, je pense, un public qui est peut-être pas 100% passionné par la danse, mais intéressé par des spectacles qui sont souvent d'ailleurs des mélanges où c'est de la danse et du texte, on va dire comme ça, je ne sais pas comment l'appeler.
Oui, il n'y a jamais de texte.
Ah, il n'y a pas de texte.
Par contre, il y a une intention théâtrale ou une situation ou une image qui se développe sans narration autre que celle des formes et des rapports entre les personnes qui sont sur scène. Donc c'est toujours un peu difficile, on a toujours un peu de mal à expliquer précisément ce que c'est.
Ce sont des spectacles de suggestion. Merci, c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Moi, je ne dois pas le faire.
Ce sont des spectacles de suggestion, donc qui ne disent pas au spectateur ce qu'il doit penser, mais qui l'attirent dans un univers où il peut lancer son propre imaginaire. C'est ça qu'on cherche, en fait, que l'imaginaire du spectateur soit mis en mouvement vers des zones qui sont en lui, mais qu'il ne repère pas peut-être aussi facilement que lorsqu'il lit un livre ou voit un film ou voit un spectacle de cet ordre-là qui va vraiment dans les tréfonds de l'inconscient. Enfin, c'est là-dedans qu'on est, dans l'intime, dans l'étrange, dans le décalage, en tout cas, vis-à-vis de la vie soi-disant réelle.
Oui, c'est ça. C'est la vie plus profonde, quelque part. Elle est
réelle.
C'est
une autre vie.
Oui, c'est... voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci ? Donc, ces fameuses... elles sont plusieurs, elles sont une, je ne sais pas. Elles sont multiples. Donc, Ophélia, avec un S au bout.
Oui, on s'est penché sur ce personnage mythique qui a été exploré par beaucoup de peintres. Enfin, à la base, c'est quand même le personnage de Shakespeare, la fiancée malheureuse de Hamlet. Enfin, tout le monde est malheureux dans la pièce, tout le monde meurt de toute façon. Donc, elle aussi. Et peut-être pour nous, beaucoup la peinture de Millet, qui a été créée suite à la mort de ce personnage, qui est une magnifique jeune femme qui rayonne, mais qui est en même temps un macabé, un cadavre, une noyée. Et c'est cette espèce de contradiction qui est choquante quelque part. Pourquoi, à un moment donné, et on est toujours dans les conséquences de ça, a-t-il fallu mythifier la femme morte ou la femme malade, la femme dépendante, la femme faible ? Et voilà, c'est autour de ce questionnement-là. Mais bon, en même temps, ce n'est pas un spectacle à message. Nous nous sommes fait nous-mêmes complètement ophéliser par la situation de cette femme dans l'eau. Ben, on a plongé avec elle, je pense, complètement. D'autant plus qu'on partage au plateau la présence de quatre femmes, quatre versions d'Ophélie. Et ces quatre femmes sont aussi reprises dans les images d'un film qui est projeté en connexion avec ce qui se passe au plateau aussi. Et là, les images sont plutôt sous-marines. C'est toute une fantaisie autour du corps pris dans l'eau, mais l'eau qui peut être menaçante, l'eau qui peut être accueillante aussi, mystérieuse. Enfin, on voyage entre les sensations que le film peut procurer et la réalité des quatre Ophélie au plateau.
Mais il n'y a pas d'eau sur le plateau.
Il y a un peu d'eau
sur le plateau. Il y a de l'eau sur le plateau.
On ne va pas tout dire.
Non, 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 d'accord. Oui. J'ai vu un spectacle où c'était... je ne sais plus où c'était. Vraiment un aquarium et ils sont deux et ils descendent. Vous l'avez vu, ça, non ?
Je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé.
C'était très poétique aussi. Oui, c'est ça, Waldo Scarbeck, exactement.
Oui, je crois qu'ils sont même en apnée.
C'est ça, c'est des apnéistes. Mais enfin, c'est de la danse. Hein. C'est très, très beau. Enfin, voilà. Donc, c'est l'esprit eau. Alors, moi, quand je vois de l'eau, je suis heureuse. Donc, chacun y voit autre chose. C'est vrai que ça peut faire peur, ça peut faire du bien, ça peut... Alors, comment on fait ? Donc, vous avez une manière particulière de travailler. De toute façon, vous avez des spectacles particuliers. Comment on peut dire ? On dit que c'est de la danse ? Qu'est-ce qu'on dit ? Comment vous appelez vos spectacles ?
Mais ça dépend un peu des spectacles qui sont assez différents, oui, selon qu'on les tire d'un côté ou de l'autre. On pourrait dire que c'est du théâtre visuel ou de la danse ou du théâtre physique. En France, qui est le pays le plus rationnel du monde, évidemment, on a besoin de nous mettre dans des cases. Et celle que certains théâtres ont trouvée, c'est hybride ou inclassable.
Ah oui, d'accord.
Et finalement, ça va. C'est vraiment... L'essentiel, c'est qu'on ne se fasse pas d'idée de ce qu'on va voir. Qu'on ne se dise pas qu'on va voir, par exemple, du ballet ou du théâtre. Ce n'est ni l'un ni l'autre.
C'est ça.
Et nos meilleures... meilleure façon de le recevoir, c'est de venir sans a priori et de se laisser emporter.
Et je dis, c'est pour ça que c'est merveilleux que vous soyez accueillis dans des théâtres, parce que si vous avez ce public-là aussi. Alors, ce sont des théâtres qui aiment la danse, les formes. Bon, nous, on a simplifié, on appelle ça des spectacles vivants, et puis, comme ça, c'est bien. Hein, ça regroupe tout. Et d'ailleurs, de plus en plus, les spectacles mélangent les genres, et c'est vraiment c'est bien, en fait, de mélanger. Il y a le théâtre classique et puis il y a tout ce qui est un mélange de danse, de musique. Voilà, j'ai vu dernièrement une pièce où c'est des musiciens qui étaient des acteurs, mais c'est aussi des très bons musiciens. Enfin, et on a des performeurs extraordinaires, je trouve, en Belgique, qui savent faire vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez choisi vos quatre Ophélie. Comment ça s'est passé?
Elles nagent très bien, d'abord. Deux d'entre elles ont déjà fait pas mal de spectacles avec nous. Pour les deux autres, c'est soit une première, soit une deuxième fois. Mais c'est vrai que ça a été un critère, du coup, puisque tout est tourné ben, justement en apnée, principalement. En tout cas, le caméraman, lui, il était en apnée. Et il y a ça, il y a un caractère, je ne vais pas dire ophélien non plus, parce que, en fait, chacune représente comme une facette de cette femme morte, belle et morte. Il y a vraiment celle qui vient du tableau de Millet, qui est très, très romantique quelque part. Enfin, c'est tout ce mouvement pré-raphaélite. Il y a une petite pensionnaire qui est sans doute abusée. Je dis sans doute abusée parce que tout ça n'est pas explicite dans la pièce, mais qui se transforme en Médusa vengeresse. Il y a un personnage un peu plus contemporain. Alors, je ne sais pas si je dois citer toutes nos sources, mais celle-là est quand même importante. C'est un film de Petzold qui s'appelle Yella. Et Yella, c'est le nom d'une femme qui a été, disons, noyée par son ex, pour aller vite. Et donc, on voit pourtant vivre pendant tout le film une vie qui a l'air plausible, juste un petit peu effritée. Il y a quand même des événements un peu bizarres qui s'y passent. Et qu'on retrouve à la fin du film morte, noyée, tirée sur la grève. Donc, en fait, toutes nos inspirations ne sont pas chorégraphiques ou c'est théâtrales. Ça, je crois que la peinture, le cinéma, mais la littérature aussi, l'écrit, mais aussi les rencontres de la vie, tout ça nous nourrit. Et ici, c'est incroyable autour de ce personnage d'Ophélie, le nombre de contributions qu'on a trouvées. Je crois qu'on a une bibliothèque entière autour des noyés, naturellement.
Ah oui, des noyés, bon. Ce qui est amusant, c'est qu'on va parler des contes d'Hoffmann et que les contes d'Hoffmann, c'est aussi trois versions d'une femme. Enfin, donc, trois femmes différentes, en fait. Voilà, il vous en parlera mieux, mais donc les femmes ne sont pas uniforme, comment on va dire. On a plusieurs facettes, en fait. Oui.
C'est important de dire ça aussi, il me semble. Il y a même une scène où elles sont dans une espèce de démultiplication du même et dont elles essayent de s'arracher à un moment donné, cette interchangeabilité de l'image de la femme. Et donc, elles vont à outrance dans les clichés qu'on leur a imposés de suivre.
Parce que dans Hoffmann aussi, c'est intéressant, il y a plusieurs interprétations, parce que ça a été beaucoup joué, et parfois c'est la même qui joue les trois rôles, et parfois pas. Ah, ouais. Et donc ce sont des interprétations un peu différentes, en fait. C'est marrant comme les thèmes peuvent éventuellement se regrouper. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas votre nom et votre travail, donc, je dirais que moi, j'ai eu l'occasion de voir donc les arrière-mondes et histoire de l'imposture, qui sont peut-être... Il y en a un que j'ai raté, apparemment, c'est ça? Il y en a eu un dans les dernières années qui...
Oui, de Grete Goetz.
D'accord. Alors, ce qui était aussi caractéristique, c'est que, même si on ne peut pas parler de danse, vos interprètes ne sont pas dans un moule danseur, jeune. C'est juste, c'est ce que, en tout cas, j'ai vu, c'est que il y a des âges différents, des physiques différents.
Oui, tout à fait. Mais je dirais même que il faut avoir un certain vécu, je crois, pour pouvoir rentrer dans ce genre d'atmosphère ou le genre de monde dans lequel on voudrait les plonger. Quoique, quand on travaille avec des danseurs très jeunes...
Quand vous dites les plonger, c'est...
Oui, c'est vrai, tout à fait. Parfois, des danseurs très jeunes, dans nos stages, par exemple, c'est étonnant. Il y a des univers dans lesquels ils se retrouvent tout à fait, alors que rien dans leur vie ni dans leur formation ne les y amène. Et donc, c'est juste ouvrir des pans de la personnalité et leur demander de faire des choses que eux poussent beaucoup plus loin que ce à quoi on s'attendait.
Mais je me disais parfois que c'est quand même parfois vous qui avez dû, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas un physique de danseur, ni un âge de danseur comme on les imagine, c'est votre talent d'aller les chercher et de dire si tu peux faire. Alors, je ne sais pas si on appelle ça de la danse ou en tout cas enfin, de la chorégraphie.
Mais ils ont une technique. Hein. Ce sont des danseurs ou des acteurs physiques, mais oui. On ne pourrait pas travailler s'ils n'avaient pas ce...
C'est ça, parce que c'est exigeant. Vous avez le travail est très exigeant. Mais enfin, ça me fait penser au défilé de mode où les plus récents, ils ne prennent pas que des anorexiques, mais aussi des gens... Voilà, j'ai eu l'impression que vous allez dans ces directions-là, d'ouvrir un petit peu le champ à des physiques un peu plus réels, en fait.
On rencontre des personnes.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui nous importe, surtout. Oui. Et l'âge, finalement, n'a pas tellement d'importance. On se rend compte que à 20 ans...
Oui, les exigences peuvent être différentes, évidemment, techniquement ou physiquement.
Oui, c'est pas tellement ça, c'est une sorte de vécu, vraiment. Je crois que dans les arrière-mondes, par exemple, et même dans Ophélias maintenant, alors que il y a une épaisseur de la personne, une épaisseur de l'expérience, de la vie, qui transparaît dans petits mouvements. Et c'est particulièrement vrai dans ce spectacle-ci, je crois.
Oui, on parle plus de présence
oui.
que de performance physique.
Et l'avantage, alors, c'est que chacun représente un vrai personnage et qu'on voit la différence. Parce que quand vous voyez peut-être des chorégraphies plus classiques, parfois on se demande qui est qui. Il y a de l'interchangeabilité. Chez vous, non. Il y a...
Mais je crois que la différence, c'est qu'on n'est pas dans l'exposition de soi. Je pense que c'est quand même assez nodal chez nous qu'on essaie que les interprètes soient traversés. On n'est pas dans l'expression non plus théâtrale, ni dans la performance circassienne ou de chorégraphique. Mais on cherche vraiment cette espèce de vie porteur que certains ont et d'autres pas. Et ça va très vite en audition. On travaille quand même quelques jours pour confirmer qu'on va s'entendre. C'est aussi question de parler
ensemble.
De
feeling, en fait.
Oui. Mais il y a quelque chose dans le regard de certains qui fait qu'on se dit, bah ouais, lui ou elle...
Allez, super. En tout cas, on va pouvoir voir ça, donc, Ophélia avec un S au Théâtre des Tanneurs du 28 du 11 au 2 du 12. Donc, dépêchez-vous de réserver, il reste encore quelques places. Et alors, vous allez nous quitter parce que vous allez assister au Primaturlingue où beaucoup de nos invités seront. Et puis, vous nous raconterez ou on lira en tout cas le palmarès de cette année. Voilà. Et puis, on va écouter un peu de musique quand même. Donc, vous avez choisi alors... Une musique qui est dans le spectacle,
oui,
je pense.
C'est une musique de Thomas Turine.
D'accord. Et qui s'appelle ?
Alors, on va passer les baleines, je crois, d'abord. Oui, c'est bien
magnifique.
Ça.
Bonjour Arturo.
Bonjour.
Bonjour Arturo. Alors comment vous prononcez votre nom? J'ai peur de faire des bêtises. Arturo?
Mais non, c'est Chacón Cruz. Arturo Chacón Cruz.
Chacón Cruz. Voilà, vous venez nous parler donc de Hoffmann, en fait, le rôle que vous jouez dans les contes d'Hoffmann d'Offenbach au théâtre de Liège, à l'Opéra de Liège. Donc ça a commencé hier et puis jusqu'au 2 décembre. J'ai eu la chance de voir le spectacle hier et c'est, comme je dis, un spectacle spectaculaire.
Merci, merci beaucoup. Et... On s'est très bien amusé aussi de partager cet opéra avec le public liégeois.
Ah oui, et puis alors vous, on vous fait chanter dans toutes les positions.
avec... c'est tellement athlétique.
C'est ça, ça vous arrive souvent qu'on vous fait, donc, parce que dans le décor, vous avez une partie où votre pièce tourne
non,
et vous aussi.
Pas du tout. Il faut partager la scène parfois avec des autres collègues qui sont moins athlétiques. Alors, c'est extrêmement rare d'avoir des productions comme ça qui nous fait sauter et tourner la tête comme ça.
Oui, en tout cas, vous avez l'air... Ça a l'air très facile, mais Dominique Corbio, qui arrive là dans quelques secondes, m'a dit que c'était très difficile de chanter avec les pieds dans toutes les directions. C'est quand même une préparation particulière ou comment ça s'est passé?
Mais on a eu accès à la boîte qui tourne que pour 5 jours.
Voilà.
Alors, c'était pas beaucoup pour se préparer, mais aussi, je fais de yoga et je fais de pilates comme ça. Et ça me tient un petit peu préparé pour utiliser ces muscles qu'on utilise dans la boîte.
Oh, c'est magnifique. Est-ce que vous savez combien de personnes sont sur scène? Parce qu'il y a des chœurs extraordinaires. Vous savez...
Oui, nous sommes autour sur scène, sur le plateau, on est autour de 70 personnes et derrière la scène, il y a encore 20 personnes qui nous aident à tourner et mettre toute la scène en place et plus l'orchestre, ce sont 65, alors et presque 200 personnes qui se mettent à travailler dans ce spectacle.
Incroyable, bon, c'est encore une chance qu'on a encore, on va dire, les moyens de monter des spectacles comme ça, et puis avec un décor.
Exactement.
Je ne sais pas à quel moment vous avez découvert le décor et qu'est-ce que vous en avez pensé, en quoi ça a influencé votre jeu finalement.
Oui, j'étais vraiment content de voir la vidéo avant de venir ici, et j'ai la chance d'admirer la professionnalité de la scène, parce que il y a des détails de la vie d'Hoffmann, de la vie professionnelle de E.T.A. Hoffmann, et c'est magnifique d'avoir l'inspiration pour voir tous ces petits objets qui représentent sa vie et son métier, son travail.
Oui, petits objets, ils sont pas tous petits, c'est gigantesque.
Oui, mais si vous savez, oui, c'est gigantesque au milieu, mais aussi on a des petites choses que représentent par exemple l'histoire d'un Anselmus, il y a la bouteille, et l'histoire de Sanctus qu'il a fait, il a le Sanctus en arrière aussi. Alors c'est très 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 particulier, très minutieux la scène.
Voilà, alors ça c'était les questions de la profane qui a adoré le spectacle. Et puis maintenant Dominique.
Oui, désolé, les aléas de la vie bruxelloise. Irit, je ne sais pas où tu en étais.
Tu as
posé quelques questions. Est-ce que je fais quand même un petit topo sur l'œuvre?
Oui.
On va faire ça. Bonsoir Arturo, je me permets de faire juste pour les auditeurs un petit topo sur le contexte de l'œuvre, un petit peu raconter l'histoire et puis je reviens vers vous pour deux questions. Ça vous va?
Absolument.
Très bien.
Absolument. Merci Dominique.
Je vous en prie.
Alors
voilà.
Si vous n'êtes pas d'accord sur son résumé, vous le dites.
Voilà, hein. Vous pouvez tout dire. Vous avez tous les droits. Donc on peut certainement considérer les contes d'Hoffmann comme l'une des œuvres les plus connues de Jacques Offenbach et même l'un des opéras romantiques français les plus souvent joués depuis sa création en 1881 à l'Opéra Comique de Paris. L'histoire est celle donc du poète Hoffmann, amant d'une célèbre cantatrice italienne nommée Stella, et qui dans une taverne se lance dans le récit de ses amours tragiques avec trois femmes venues de son passé et qui sont en fait trois visages fantasmés de la même femme, cette fameuse cantatrice Stella. La première de ces figures féminines est Olympia, une poupée mécanique chantante dont Hoffmann veut absolument se convaincre qu'elle est véritablement humaine. La deuxième est Antonia, une diva qui ne chante plus car elle est frappée par une sorte d'étrange malédiction et elle mourra si une seule note devait sortir de sa gorge. Et puis finalement la troisième, c'est Giulietta, une courtisane qui a pactisé avec le diable et qui vole le reflet des hommes qui ont le malheur de succomber à ses charmes. Donc évidemment la dimension fantastique et surnaturelle ne vous échappe pas, elle est effectivement très importante dans cet opéra avec la présence d'un personnage maléfique qui prend lui aussi différents visages dans chacune des histoires et qui provoque toujours la fin tragique. Mais le poète Hoffmann heureusement est aidé par sa muse, parce que qu'est-ce que serait un poète sans sa muse, et elle prend forme humaine sous l'apparence d'un jeune homme appelé Niklaus et qui suit Hoffmann dans ses aventures. C'est une production qui est mise en scène par Stefano Poda qui signe également les décors et les costumes, très beaux d'ailleurs, et les lumières et la chorégraphie, donc c'est un spectacle total. Le résultat est visuellement splendide et Stefano Poda, comme vous en parliez je pense, a décidé de transposer l'action dans un gigantesque cabinet de curiosité avec des rayonnages et toutes sortes d'objets depuis le sol jusqu'au plafond, symbolisant en fait l'effort d'Hoffmann de rassembler toutes les pièces de sa vie et tenter à travers l'art et la beauté de comprendre le sens de la vie mais aussi son mystère. Donc la distribution, elle est de haut vol. On a notamment dans les rôles principaux la soprano australienne Jessica Pratt qui interprète, et c'est une prouesse, les quatre figures féminines dont je viens de vous parler. Il y a le baryton basse uruguayen Erwin Schrott qui interprète lui les différents personnages diaboliques. Et puis il y a la mezzo-canadienne Julie Boulian qui interprète elle la muse alias Niklaus, le jeune homme. Et enfin... le dernier mais pas le moindre, le poète Hoffmann qui est interprété par Arturo Chacon Cruz qui est avec nous ce soir. Et donc j'avais une petite question après avoir fait un rapide topo pour que tous les auditeurs sachent de quoi on parle. Donc Hoffmann, on sait que c'est un des grands rôles du répertoire pour ténor. Alors ma question est, qu'est-ce que ce rôle représente pour vous vocalement, théâtralement? Quels sont les côtés exaltants, gratifiants, et aussi peut-être d'un autre côté aussi tout ce qui vous met plus au défi?
Super, merci beaucoup de m'avoir ici. Alors Hoffmann, c'est théâtralement, c'est théâtriquement, c'est le rôle peut-être plus difficile de chanter, de mettre en scène, parce que il est plein de la personne, la véritable personne était à Hoffmann. Et Offenbach a vraiment laissé cet homme dans cette histoire. C'est difficile quand on parle de personnages fictifs, pas vrais. On peut vérifier l'histoire de le moment où il était.
Mais il s'est vraiment inspiré d'un personnage réel, en fait, c'est ça. C'est un personnage qui a une réalité concrète.
Pour moi, exactement. Pour moi, j'ai lu toutes ces histoires et sa vie, c'est complètement folle. Il a vécu des choses. Il a vu 5, 6, 7 vies ensemble dans sa vie. Il était mort à mon âge, à 46 ans. Mm-hmm. Et c'est une autre chose que je remarque toujours, parce que à ce moment où je me trouve, il a trouvé sa fin. Alors, c'est toujours expérimenter et trouver ces petits détails d'être un homme que véritablement, ça semble qu'il a... il était vivant dans notre temps.
C'est ça, donc c'est... Excusez-moi, je vous ai coupé. Continuez, excusez-moi. Parce que comme je ne vois pas, c'est difficile de... Dites-moi, donc c'est dépasser en fait les difficultés vocales pour donner un naturel et donner réalité humaine à ce personnage.
Oui, les difficultés vocales, ce sont... Mais que Offenbach a écrit une pièce très dramatique, très, très, très dramatique. C'est le, l'hôtel l'or français.
C'est ça, vous êtes en scène tout le temps, en fait. Hein, donc ça, il faut le préciser.
On est en scène tout le temps et toute l'écriture musicale, c'est vraiment puissante et lourde. Alors, c'est le challenge plus difficile, c'est ça. Mais pour moi, je trouve que interpréter le personnage, c'est aussi peut-être plus difficile. Uh-huh. Parce qu'il était tellement compliqué.
Et alors, c'est pas votre première production hein, d'Hoffmann, je vous l'avais déjà chanté plusieurs fois. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous a apporté le travail avec ce metteur en scène en particulier, Stefano Poda, qui a cette vision très esthétisante, qui s'appuie sur l'art, sur les références symboliques, culturelles, afin d'éclairer un peu notre réalité, une réalité qui, comme les personnages de la pièce, finalement, ont plusieurs visages, plusieurs interprétations.
Oui, je fais 14 productions déjà et lui-là, avec Stefano Poda, je me trouve dans une situation différente parce que Stefano, il est très préparé. Il y a beaucoup de directeurs metteurs en scène qui laissent le chanteur faire et s'il aime l'action, on la laisse pour l'obstacle. Mais Stefano, il sait exactement ce qu'il veut. Et c'est une chance de travailler, de parler et de trouver deux têtes, deux imaginations à se trouver et parler des possibilités. Alors, j'ai eu une expérience magnifique avec Stefano parce que j'ai découvert sa tête.
Son imaginaire.
Son génie. Et il a aussi découvert mon espoir et ma vie parce que je pense que j'ai beaucoup à offrir comme personnage parce que j'ai aussi ma
ça vous donne l'impression que vous avez pu approfondir ou découvrir d'autres facettes du personnage avec lui?
Exactement, oui. Et comme que je disais avant, je fais mon premier Hoffmann quand j'avais 31 ans et maintenant j'ai 46 ans, la même âge que Hoffmann, le vrai Hoffmann avait quand il était.
Donc en fait, votre Hoffmann prend la maturité en même temps que vous.
Exactement. Et à la fin, je pense que c'est plus facile parce que je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 15 ans.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut toujours injecter de sa propre vie dans son personnage. Et ça lui donne plus d'épaisseur aussi.
Oui, exactement. Et je trouve que Monsieur Hoffmann, le vrai Hoffmann, il était obsédé avec la vérité. Il a cherché la vérité de tout. Ce que je voulais dire avant, c'est ça semblerait qu'il il était vivant en 2023. Parce qu'il était obsédé avec l'intelligence artificielle.
Tout à fait.
Oui.
Oui, vous parlez de cette obsession. Et en fait, il y a un moment où, d'ailleurs, je pense que Irit, on était tous les deux là pour la première hier et elle a été très marquée par ça puisque dans le premier acte, vous êtes dans une sorte de cube qui est votre chambre et qui tourne sur lui-même et ça vous oblige à être en permanence en mouvement pour suivre le cercle le cycle de ce cube et de ne pas tomber. Et un petit peu comme les idées obsessionnelles d'Hoffmann qui tournent en boucle dans sa tête. Et donc, cette image était assez forte et on se disait aussi qu'en termes de performance physique, de garder un calme et une voix complètement sereine avec ce tour de force physique, c'est presque c'est du cardio presque.
Oui, beaucoup de cardio. Je dois changer mon t-shirt 3-4 fois.
Arturo, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va écouter un extrait musical. Alors évidemment, dans cet opéra, il y a pas mal de passages très connus. Il y a l'air de la poupée, hein, les oiseaux dans la charmille, il y a la fameuse barcarolle. Mais là, c'est vous qu'on a envie d'entendre. On va écouter la chanson de Kleinzak, un extrait qui se passe donc au premier acte. D'ailleurs, le moment où vous êtes dans le cube, où vous faites toute cette gymnastique, et donc vous êtes accompagné par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Liège sous la direction de Giampaolo Bizanti. Et voilà, merci infiniment et tout le meilleur pour la suite des représentations.
Merci beaucoup et beaucoup de succès. On ne doute pas que ce sera un énorme succès. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci madame.
Au revoir.
À bientôt, merci. Au revoir.
Et voilà, c'était Arturo Chacon Cruz dans la chanson de Kleinzak, extrait des contes d'Hoffmann d'Offenbach, qui sont à voir à l'Opéra de Liège jusqu'au 2 décembre. Et toutes les informations sont évidemment disponibles sur le site opéradeliège.be.
Et on continue encore avec de la musique, mais de la musique et des poèmes, pour un spectacle qui va se jouer une seule fois. Et on a une chance exceptionnelle. Donc ça va se jouer au Centre communautaire laïc juif jeudi, donc le 23 novembre à 20h. Alors on aura deux personnes sur scène qui sont Evgeny Kissin, qui est un pianiste mondialement connu, vraiment, qui a commencé la musique à 2 ans, je vais vous en parler tout de suite. Et Benjamin Zvekov, qui est un des acteurs russes qui habite toujours en Russie, un des plus célèbres, que ce soit théâtre, directeur de théâtre, cinéma, etc., qui est nettement plus âgé. Et ils vont venir vous réciter des poèmes, vous parler d'un certain nombre de poètes russes, yiddish, qui ont tous été supprimés par Staline. Alors, c'est une histoire qui... Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas très connue, en tout cas, par moi, elle n'était pas... Vous savez qu'au début du XXe siècle, il y a encore 11 millions de juifs qui parlaient le yiddish. Je dis de juifs parce que quand même, c'était principalement des juifs. La relation entre Staline et les juifs a beaucoup varié dans le temps. Il a aidé, par exemple, à la création de l'État d'Israël. Et puis, il a. Je cherche mes notes parce que je ne suis pas une historienne. Je me suis intéressée à tout ça et j'ai été vraiment estomaquée par l'histoire, en fait. La nuit des poètes, qui est quelque chose d'assez connu, qui désigne l'exécution le 12 août 52 d'intellectuels et d'écrivains juifs d'expression yiddish, qui est l'aboutissement de tout ce contexte. Donc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1942, les intellectuels juifs soviétiques, les plus souvent d'expression yiddish, avaient formé ce qu'on appelait le comité antifasciste juif, dont l'objectif était de diffuser la propagande pro-soviétique à des audiences étrangères et donc de collecter des fonds pour l'URSS. Donc ils étaient tout à fait plus que patriotes russes. Et donc ils essayaient de trouver de l'argent auprès de juifs du monde entier et principalement américain, donc pour l'URSS. Donc ce comité donc antifasciste juif s'implique dans la recherche après la guerre de documents sur la Shoah. En 1945, quand même, la population juive était assez importante puisqu'il y avait 3 millions de juifs. Et Staline décide en 1947 d'apporter son soutien d'ailleurs à la création de l'État d'Israël. En 1948, Golda Meir se rend en URSS. Elle la cite au service de Rosh Hashanah et de Yom Kippour dans la grande synagogue de Moscou. Et elle est acclamée vraiment par des cris. Le peuple juif vaincra, vivra, survivra, etc. Et donc, ça ne lui plaît pas tellement, en fait. Il trouve qu'à ce moment-là, les juifs prennent comme un peu trop d'importance. Et il y a une nouvelle notion qui est le cosmopolitisme. Donc, pour Staline, les acclamations en l'honneur de Golda Meir, alors que l'État d'Israël vient de naître, sont une manifestation de nationalisme qu'il faut réprimer. Et donc, il s'ensuit toute une sorte de chasse aux Juifs, petit à petit. Donc, ils sont d'abord discrètement tués, et puis il y a des vrais procès, et puis il y a carrément des exécutions en nombre. Donc c'est vraiment, en 1948, le comité est dénoncé auprès du comité central du PC. Et donc l'enthousiasme sioniste pour le jeune État d'Israël, ça l'énerve. Et le comité antifasciste juif est donc ensuite invité à mettre en œuvre le départ des Juifs soviétiques vers le Birobidjan. Donc, c'est une région qui est proche de la Sibérie et Staline avait décidé que les Juifs allaient vivre là-bas. Bien sûr, ils n'ont pas voulu et donc il ne s'est pas laissé faire et puis ça l'a énervé. Et puis voilà, d'où l'éradication du Yiddish et des Juifs ont commencé à ce moment-là. Alors, nos deux invités donc du 23, donc Evgeny Kissin, il est née en URSS, donc à Moscou, de parents juifs. Mais c'est surtout chez ses grands-parents qu'il a entendu le yiddish, mais il ne le parlait pas. Sa mère était professeure de piano et donc dès l'âge de 2 ans, il a commencé le piano. Et à 10 ans, il faisait partie déjà d'un orchestre. Et à 18 ans, il jouait à Berlin sous la baguette d'Herbert von Karajan. Et puis aux États-Unis en 1990, enfin c'est vraiment enfin, c'est un grand honneur hein, de l'avoir chez nous. Et il a commencé à redécouvrir le yiddish et à l'apprendre vraiment académiquement. Donc il était allé aux cours et pendant ses cours, ben, on lui a fait traduire des poèmes juifs. Puis on lui a dit que tous ces poètes avaient été exécutés. Et donc il a vraiment voulu remettre en lumière toute cette histoire. Et il s'est adressé donc à Benjamin, j'avais envie de l'appeler Benjamin, évidemment, Smekov, qui était en fait son idole de jeunesse en tant qu'acteur, en tant que directeur de théâtre, etc. Et ils en ont parlé à deux. Et évidemment, Benjamin a tout de suite été tout à fait d'accord. Il avait 8 ans quand l'assassinat des poètes juifs ont commencé. Et donc, il a toujours été porté par cette histoire lui aussi et très, très heureux d'en faire partie. Et donc, vous allez avoir et de la musique, évidemment, et on va vous raconter l'histoire de quelques-uns de ces 40 poètes, pas tous, en lisant aussi des extraits, parfois en russe et parfois en yiddish. Et évidemment, il y aura la traduction derrière, mais il y aura aussi tout un film à l'arrière-plan avec des vraies images de la famille, des deux familles à l'époque et maintenant. Je pense que ça va être une soirée terriblement émouvante, d'une qualité exceptionnel vraiment. Et puis après, vous pourrez parler avec les deux protagonistes et voir. Il y en a un qui est maintenant, qui a la nationalité israélienne d'ailleurs depuis quelques années. Donc c'est Evgeny. Par contre, Benjamin, il habite toujours en URSS. Et c'est intéressant de voir comment vivent les Juifs en URSS aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est une soirée à ne pas rater. Voilà. J'ai essayé de vous trouver des poèmes avec une traduction française poétique. C'est pas si facile, donc venez jeudi et puis vous allez avoir des extraits d'énormément de poèmes, de poètes avec leur histoire, leur début, leur fin, etc. Et puis le yiddish, c'est quand même une langue tellement savoureuse que même quand les propos sont tristes, on a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est pareil. Et puis voilà, restons témoins de cette langue qui disparaît et qui pourtant est tellement exceptionnelle. Alors on va entendre un petit peu donc Evgeny. Jouer. C'est un énorme artiste. J'ai vu qu'il avait fait jouer ce spectacle avec Gérard Depardieu, qui faisait le texte en français. Vous voyez qu'on est vraiment à des sommets. Voilà, alors on se voit jeudi. Mais on passe à un autre genre de musique avec Aurélie Saad. Alors peut-être que son nom, ça va commencer à vous dire quelque chose, mais si je vous dis les Brigitte, peut-être que ça vous dit un peu plus. Donc Aurélie Saad, c'est une des deux Brigitte. Et donc l'année dernière, elle a sorti son premier album solo qui s'appelle Bombolini. Et elle vient à la Tricoterie le 1er décembre, donc un seul soir, donc courez-y. Elle vient avec ses 5 musiciens, elle va nous faire évidemment son album Bombolini, mais aussi quelques chansons des Brigitte, et puis elle va tester sur nous aussi quelques nouvelles chansons, elle nous a dit. Alors Aurélie Saad, c'est le charme absolu, c'est des paillettes, mais c'est aussi de la mélancolie, elle parle de toutes les étapes de sa vie de femme, mais voilà, on chante, on danse, on pleure, on rit, et on mange, parce que donc c'est une spécialiste de la cuisine. D'ailleurs, le lendemain, vous pouvez la voir à la FNAC à 11h pour son livre « Cuisiner le soleil ». Donc, elle vient des pays méditerranéens. Donc, elle aime la cuisine généreuse. Et pourtant, elle est toute main. J'ai dit, c'est pas juste, franchement, je sais pas comment elle fait. Mais venez voir un petit peu ce que ça donne, donc la cuisine méditerranéenne sur une chanteuse. Donc Aurélie Saad, on va l'écouter dans Bombolini. Et je vous attends, donc parce que moi, j'y serai le 1er décembre à la Tricoterie.
Dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué, ton cœur elle a laissé. J'ai des recettes pour oublier. Des cornes de cassel, des Monte Carlo, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat. Pour balayer ta peine, je ferai des petits plats. Soignerai ton ventre, chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras, tu l'oublieras. Je ferai la magicienne sur ta langue et dans.
J'espère que je vous ai donné le goût pour le reste. Et puis Aurélie Saad, ben on a parlé avec elle il y a quelques jours, parce qu'elle n'est pas à Bruxelles pour le moment. Et je vous fais écouter son interview. Et puis si on a encore du temps, eh bien on passera encore un peu de musique. Voilà, le 1er décembre à la Tricoterie.
Petit. Allez, c'est bon.
Aurélie Saad, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et merci de répondre au micro de Radio Judaïka Belgique, puisque vous venez en Belgique le 1er décembre, dans un lieu merveilleux que nous, on adore, qui s'appelle la Tricoterie. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la Tricoterie.
Pas encore, ça va être ma toute première fois.
Ah oui, écoutez, c'est un lieu magique, voilà, qu'on soutient très fort, un concept très particulier. Alors, vous venez pour un concert. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre ? Donc, évidemment, les chansons de Bombolini, j'imagine.
Et oui, alors je viens avec mon groupe de 5 super musiciens,
wow.
Interpréter donc les chansons de l'album Bombolini, mais aussi quelques chansons de Brigitte et aussi des nouvelles chansons que j'ai, des nouvelles chansons que je viens d'écrire et que voilà, je m'amuse à jouer, à essayer sur scène, voir si ça plaît, si je les mets sur le prochain album.
C'est parfait. Venez essayer en Belgique. Tout le monde dit qu'on est un public super, qu'on est très,
Mais vous êtes
très réceptif.
Ah ouais, vous êtes un public super. C'est un public d'une tendresse et d'une sympathie géniale.
Voilà, et d'une bienveillance. Bon, évidemment, ceux qui ont acheté les billets pour venir vous voir, c'est que déjà, ils vous aiment. Et ça, je comprends tout à fait. Et vous allez voir la salle. C'est une nouvelle salle. Il y a une acoustique extraordinaire. Vous voyez bien tout le public. Enfin, ça va être une soirée géniale. Et une seule soirée. Hein, donc c'est tout. Mais je pense que vous avez une belle tournée déjà, parce que ce disque qui a un an, mais vous continuez à le défendre avec tout votre cœur.
Oui, j'avais joué à l'ancienne Belgique C'était il y a à peu près un an, peut-être un peu moins.
C'est ça.
Et voilà, et là, je suis contente de revenir. Et d'ailleurs, le lendemain du concert, le lendemain à 11h30, je serai à la FNAC de la Toison d'Or et je viens pour dédicacer mon livre de cuisine. Donc, je suis contente d'être à Bruxelles pour ces deux petits événements-là.
Voilà, deux rendez-vous. Parce que donc, vous êtes une passionnée de cuisine. Alors, quand on voit votre tour de taille, on ne se doute pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste. Je trouve que ce n'est pas normal.
C'est juste que j'ai appris à rentrer le ventre, c'est tout.
Ah, voilà. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, ce dimanche, nous avions ici à Bruxelles, et je pense que ça arrive, ça existe un peu dans le monde entier, une challah-bake. Vous voyez ce que c'est? C'est une grande réunion de femmes. Nous étions 500 et nous avons préparé des challahs. Je pense que c'est une de vos spécialités. Voilà, parce que juste avant d'y aller, je vous ai vu dans sur France 2 et vous avez préparé à vos copains, on va dire, une challah. Ça m'a fort inspirée. Elle était magnifique. Franchement, bravo.
Mais j'adore. J'adore faire ça. J'en fais beaucoup. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai mis des recettes de pain, de challah. Je trouve que c'est une recette qui est simple, qui est tendre, qui est facile à faire, qui coûte pas cher. Franchement, qui réjouit tout le monde. Tout le monde devrait faire des challahs tout le temps.
Alors, évidemment, d'abord, il y a l'odeur, hein, pendant que la challah est au four. Et puis, ça rassemble tout le monde. Et puis, quelqu'un qui fait du pain, c'est... on remonte à des origines, hein, mais je trouve que c'est un cadeau merveilleux, en fait. Mais alors, il faudrait quand même que dans les journalistes qui vous interrogent, donc, que vous leur expliquiez bien qu'on dit une challah et des challah, parce que j'ai trouvé le challah, toutes sortes de choses. Dans...
Ouais. Les gens, c'est souvent compliqué pour eux le singulier, le pluriel, dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Je comprends.
Il faut leur en apporter.
C'est pas grave, on leur pardonne.
Voilà. Oui. On est trop contents de voir le mot challah dans un article, franchement. Alors, donc, 5 musiciens, 5 beaux garçons, plus vous, une fille magnifique. Alors, on en aura plein les yeux, plein les oreilles. Comment vous définiriez votre style, en fait, votre style musical? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Ben moi, j'avais envie de faire un disque pour Bombolini qui évoque les souvenirs, qui soit comme un gros câlin, comme quelque chose de très réjouissant, comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des cordes, il y a des cuivres dans le disque, il y a comme ça des inspirations, un peu des orchestrations à la Charles Aznavour, à la Lee Hazlewood, Nancy Sinatra. Je voulais quelque chose comme ça qui évoque une musique peut-être qui correspond pas totalement au code de l'époque, aujourd'hui, mais plus à une époque plus familière, on va dire, un peu plus années 60, quoi. Mais moi, c'est vraiment une musique que j'adore. J'écoute beaucoup de jazz de cette époque-là, j'écoute beaucoup de musique de cette époque-là, et c'est une musique que j'aime parce qu'elle est comme un immense câlin. Elle a quelque chose de grandiose et d'intime à la fois. Donc, j'essaye de rendre ça sur scène. Décor ressemble un peu... un décor d'une scène de boudoir d'un film hollywoodien dans les années 50. Il y a un grand rideau, tout est rose, il y a de la moquette rose au sol. Il y a quelque chose de comme ça, comme si on entrait dans un boudoir. Et j'avais envie de donner cet esprit-là. Et que le public, quand il vient me voir, il a l'impression qu'il est venu à la maison, que je lui ai donné un billet de cœur. Exactement.
Ouais, chacun
était venu manger chez moi.
Je sens qu'on va avoir un sourire idiot pendant tout le spectacle comme ça. Ne vous moquez pas de nous. Hein. C'est plaisir. Alors, je me posais une question. Vous avez deux enfants et vous faites tellement de choses que quand finalement à l'école, on leur demande « Mais qu'est-ce qu'elle fait ta maman ?» Elles répondent quoi? C'est quoi le métier de ta maman?
Je ne sais pas ce qu'elles disent. Elles disent ce qu'elles veulent. Je pense qu'elles ont dit chanteuse pendant longtemps.
C'est ça.
Et puis, peut-être qu'elles disent un peu réalisatrice. Peut-être qu'elles disent autrice. Je les laisse faire. Je ne leur demande pas vraiment.
Bientôt
même
plus.
Moi, j'aime bien aller voir ailleurs si j'y suis.
Oui. En tout cas, vous êtes une artiste. Et vous faites, c'est un mot très à la mode, mais de la world music, puisque c'est de la musique qui a des inspirations quand même assez variées. Même si c'est pas africain,
c'est vrai.
Quoique, la Tunisie, c'est en Afrique. Hein.
Donc, bah, oui.
Voilà, donc vous prenez un petit peu de tous les continents. Voilà, vous représentez vraiment la musique du monde et on va dire la musique de la paix dans le monde. On en a bien besoin pour le moment. Hein.
Oui.
Mais écoutez, moi je dis toujours avec tous les pays du Maghreb, etc., on aime la même nourriture et la même musique. On doit s'entendre. C'est pas possible autrement. Franchement.
Oui, on aime le même essentiel, je suis d'accord.
Mais voilà. En tout cas, on est vraiment heureux de vous recevoir donc en Belgique. Je dis vous recevoir hein, parce que voilà, c'est comme notre maison aussi. On vous accueille, on peut vous adopter si vous voulez. Après, vous nous dites si vous voulez, on vous adopte. Mais entre-temps, on vous reçoit et on viendra vous voir donc le 1er décembre à la Tricoterie. Il reste encore quelques places, donc la tricoterie.be pour les réservations. Et donc le lendemain à la FNAC, donc à 11h ou 11h30, qu'est-ce que vous avez dit ?
11h30, ouais, à la Toison d'Or.
Voilà. Ouais. Et votre livre s'appelle Cuisiner au soleil, c'est ça ?
Cuisiner le soleil.
Ah, cuisiner le soleil. Oh là là, quel programme. Ouais. Bon, alors, je vous souhaite... alors, voilà, on attend, on décompte les jours et on se verra le 1er décembre. Merci beaucoup, Aurélie Saada.
Merci beaucoup, merci.
Au revoir. Judaïka. 90.2 FM.